France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Hors champ, c'est le titre de son 11e roman. Marie-Hélène Lafon continue de creuser le sillon d'un récit familial dans une France paysanne qui disparaît. Elle sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critique. Aujourd'hui au programme, les sorties cinéma avec le très annoncé Hurlevent d'Emerald Fennell avec Margot Robbie et Jacob Elordi et Aucun autre choix, ça c'est le 12e film de Park Chan-wook inspiré d'un roman de Donald Westlake. Vous écoutez les Midis de Culture et ça commence à se voir. Eux aussi ont vu les critiques du jour. Muriel Joudé, critique et autrice, bonjour.
Bonjour.
Charles Bosson, critique, auteur et documentariste, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Et on commence avec Hurlevent, Hurlevent entre guillemets d'ailleurs, comme si Emerald Fennell, la réalisatrice et scénariste, annonçait dès le titre qu'il s'agit là plus de sa vision fantasmée de l'œuvre qu'une adaptation du roman d'Emily Brontë. Le film d'ailleurs se concentre essentiellement sur Heathcliff et Catherine, interprétées par Jacob Elordi et Margot Robbie. Leur relation est présentée comme une romance brûlante, à rebours du naturalisme à l'œuvre dans l'adaptation de sa compatriote Andrea Arnold en 2011. Emerald Fennell, elle, choisit la profusion de couleurs et l'exacerbation du désir. On commence avec un avis en quelques mots. Muriel Joudé.
Bah, bonne Saint-Valentin. Parce que, voilà, le film est vraiment sur le créneau. Et donc, il sort aujourd'hui. Comme Fifty Shades of Grey, la trilogie des 50 nuances de Grey était sortie le jour de la Saint-Valentin. Et le film, n'est jamais un film, mais plutôt la bande-annonce, une sorte de perpétuelle bande-annonce de lui-même. Voilà, très étrange.
Charles Bosson.
Le film est assez consternant, malheureusement. J'aurais aimé y trouver quand même un petit plaisir, peut-être pop-corn. Mm-hmm. Mais je crois que le film est à la fois décevant et comme film d'auteur et comme blockbuster. Et il est ni l'un ni l'autre. C'est une drôle de... Il y a quelque chose d'un peu monstrueux.
Alors, pas blockbuster du tout. Moi, j'ai l'impression, quand je vois les images comme ça, que c'en est un. Mais...
Oui, il y a de l'argent, disons. Voilà. Il y a, je crois, 80... En fait, blockbuster, c'est deux choses. C'est l'argent à la fois pour le film et aussi pour la promo. Et j'ai lu que Margot Robbie, qui produit le film avec sa société de production, et Emerald Fennell avait dû choisir entre Netflix et Warner. Ils avaient choisi Warner parce que Warner mettait beaucoup d'argent dans la promotion. Donc voilà, c'est l'idée que c'est exactement comme Barbie, c'est que il y a beaucoup de publicité dans la rue, beaucoup de promotion. Moi, j'avoue que sur mes réseaux sociaux, j'ai un algorithme qui m'envoie toutes les robes de Margot Robbie qui, à chaque tapis rouge, porte des robes qui sont liées au film. Donc voilà, c'est cette viralité que le film cultive et qui... mais même en son sein, le film cultive une sorte de viralité. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est qu'un buzz, qui est construit sur un buzz. Et ce buzz, c'est l'idée qu'on va rapprocher les corps de Margot Robbie d'un côté, qui est disons, l'actrice la plus désirable... économiquement, en tout cas commercialement, d'Hollywood. Et en face, Jacob Elordi, qui est donc cet acteur d'1m93, une sorte de bloc comme ça de muscles brun ténébreux. Je crois qu'on l'a découvert dans Euphoria.
Oui.
Il jouait dans Frankenstein, il est extrêmement beau. extrêmement sexy. Enfin, c'est vraiment le sexe symbole inespéré qui arrive comme ça tous les 20 ans. Enfin, et donc voilà, le film promet que ça va être torride entre ces deux corps-là qui sont voilà à la fois sexy et en même temps commercialement très bankable. Et donc à ce titre, le film, et on sent qu'Emerald Fennell n'est intéressé que par ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire que un film, c'est des relations, des personnages secondaires, des situations. Et tout ça ne l'intéresse pas. C'est comme si vous preniez une chanson, vous enleviez le couplet et vous gardiez que les refrains, que les climax. Et donc, on a l'impression que le film ne commence jamais ou qu'on est toujours au milieu du film. Et ça crée quelque chose d'assez étrange, voilà, qui échappe complètement. Enfin, moi, je reconnais aucun code de ce qu'est pour moi le cinéma et la mise en scène. Et qui réduit aussi le concept de mise en scène à une pure direction artistique. C'est-à-dire que on surinvestit comme Barbie les décors, les costumes, l'image, mais tout ça donne une sorte de beauté très très glacée, très froide de shooting photo. Vraiment. Et donc voilà, on cherche le cinéma, il y en a jamais, mais il y a autre chose, il y a des moyens, il y a une image très léchée. Et je pense que le problème principal du film, c'est que Margot Robbie, enfin, on est vraiment dans le syndrome de l'actrice qui produit, c'est-à-dire qu'elle dévore complètement le film au détriment de tous les autres personnages. Je trouve que il y a une autre femme dans le film qui est complètement sacrifiée, dont on nous dit en gros elle est bête et elle est moche, contrairement à Margot Robbie. Enfin, moi j'ai trouvé ça très. J'ai senti vraiment l'ego trip à l'œuvre et le fait que Margot Robbie dévorait tellement tout que le film ne pouvait même pas se faire, qu'elle était en train de nous voilà de d'essayer des robes devant nous pendant 2h20 comme dans un show de Lady Gaga. Et donc voilà, donc le film voilà est déjà prêt pour Instagram, pour les réseaux sociaux, sans être jamais du cinéma.
Charles Bosson, juste pour rappeler, quel choix a fait la réalisatrice sur l'histoire même des Hauts de Hurlevent?
Alors elle se l'est vraiment réappropriée, comme l'ont fait tous les cinéastes qui ont travaillé sur le roman, puisqu'il est inadaptable par sa durée, que ce soit Rivette, Buñuel, enfin, ils ont été très nombreux, Wyler, André Arnold, chacun et chacune a pris vraiment un angle. Elle a fait quelque chose qui est vraiment une erreur d'école, c'est qu'elle a retiré un personnage qui est le frère de Catherine Earnshaw. Par exemple, le film de Rivette, Hurlevent, qui est très réussi, s'ouvre par le regard de ce personnage complètement malade, martyrisé, puisqu'il est amoureux de sa sœur et il est désespéré d'avoir été dépossédé de l'amour du père. Alors, je pense que la réalisatrice s'est dit, on veut pas coincer le personnage féminin entre deux regards d'hommes. Donc, enlevons ce male gaze, ce regard féminin, ce regard masculin, pour laisser la cruauté à ce personnage féminin. Le problème, c'est que tout à coup, elle veut jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire être à la fois une romance très sentimentale, quelque chose d'un peu érotique, quelque chose de très premier degré, tout en étant gonflé de références de cinéma très pointues et assez austères. Le problème, c'est que le film est vraiment en pièces, et je pense que c'est vraiment en ayant enlevé cette cheville que tout à coup tout l'édifice s'effondre. Voilà, et que c'est quand même une leçon à tirer. Alors, il ne faut pas respecter à tout prix les œuvres de patrimoine, c'est très bien de les trahir, mais quand on enlève un élément, c'est comme le Mikado, tout s'effondre. Et moi, j'ai vu un entretien avec Margot Robbie qui est assez intéressant, où elle se balade dans les décors du film, qui sont tous plus sublimes les uns que les autres, ça c'est vrai. Et elle dit, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Jacob Elordi et je lui ai dit, là mon gars, il va falloir qu'on joue encore plus que ce qu'on avait prévu parce qu'on ne nous verra pas autrement. Et je pense que tout le problème du film est là, c'est-à-dire que les acteurs sont en compétition avec la direction artistique et pourtant, ce sont des acteurs, on est au cœur de toutes les contradictions hollywoodiennes et du moment, ce qui rend le film assez fascinant en réalité. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui sont à la fois une cible de désir et qui n'ont qu'une envie, c'est d'y échapper. C'est-à-dire qu'on voit bien que Margot Robbie ne veut pas, elle a glissé entre les doigts et de Scorsese et de Tarantino pour aller faire ses propres films, ce qui est plutôt assez louable. Jacob Elordi est à la fois le Elvis très inquiétant de Priscilla, il est à la fois le Frankenstein, c'est quelqu'un qui veut être tout sauf une sorte de grand bellâtre. Et là, c'est ce qu'il est, c'est-à-dire c'est une espèce d'armoire qui parle en ASMR, alors c'est vraiment des scènes consternantes entre eux, et de temps en temps, il y a des espèces de touches de ce que la réalisatrice appelle Twisted Love, et alors qui serait informée, elle fait des listes de films invraisemblables, c'est très à la mode en ce moment. Romance de Catherine Breillat, ça c'est cadeau pour Muriel, romance de Catherine Breillat là-dedans, Portier de nuit, voilà, des histoires extrêmement compliquées, sulfureuses, et je pense qu'elle cherche à extraire de ce roman, comme l'ont fait, alors, la plus belle adaptation finalement de Wuthering Heights, c'est Kate Bush, qui l'a faite en musique en 78, c'est d'aller extraire quelque chose qu'on lit à l'adolescence et qui quelque part nous arrache à l'adolescence. Je pense que c'est ce sentiment qu'elle a essayé d'explorer, comment en tant que gamine de 14 ans, tout à coup, on est plongé dans un monde qui nous dépasse et qui est une sorte de monde adulte, sombre, inquiétant, plein de claustration, et comment on essaye de s'en sortir. Le problème, une fois de plus, c'est que tout lui échappe et que tous les collaborateurs font un travail absolument brillant et notable, mais que la mayonnaise vraiment ne prend pas.
Mais c'est une passion empêchée, normalement. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait justement de cette violence, selon vous, Muriel Joulet ?
On est vraiment... Enfin, moi, c'est... Ce qui est fait vraiment, c'est un 51 degrés arty. Enfin, c'est vraiment l'argument du film. Encore une fois, c'est pour ça qu'il sort juste avant la Savoie. Enfin, il y a vraiment cette idée que le roman est un super... Et en même temps, on revient à la source... du roman qui a inspiré toute cette dark romance, c'est-à-dire que 51 degrés, c'est déjà Heathcliff, version voilà sadomaso. Donc elle revient à la source et après moi je suis pour toutes les libertés, mais c'est vrai que en fait il y a cette idée que moi c'est un film qui va avec le puritanisme hollywoodien. C'est d'un côté on a voilà les films Disney, le fait que le corps a disparu à Hollywood, et du coup ça va créer à intervalles réguliers, on va faire semblant de redécouvrir la sexualité à Hollywood, et cette sexualité elle est enfin, c'est très drôle le film parce qu'en fait on voit pas, on voit jamais le corps de Margot Robbie. Enfin, ça arrive à être un peu sulfureux tout en étant toujours très puritain et très mièvre. Et donc on a ce retour de l'érotisme soft des années 80, voilà où on va avoir le dos de Elordi suant, voilà avec les gouttes de sueur qui perlent dessus. Enfin, un imaginaire comme ça qui n'est toujours pas la sexualité, qui est autre chose. Et vraiment, moi je pense que, je sais pas si c'est votre cas Charles, mais c'est tout, vraiment j'attendais juste les scènes érotiques. Enfin, au bout d'un moment, on a compris que c'est ce qu'Emerald Fennell qui vraiment je trouvais, déjà comme son premier film, il y a quelque chose de, je la trouve très cynique, très très pubarde dans sa...
C'était A Promising Young Woman.
Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est un film vraiment profondément sans âme, et je pense aussi qu'il y a aussi le problème Margot Robbie, qui a comme ça énormément de pouvoir à Hollywood, qui sait qu'elle peut se construire des films autour de son nom, et qui a aussi une conception, je trouve, du cinéma très très tapageuse et pas du tout intéressante, mais qui va continuer. Mais c'est aussi Hollywood qui est en mesure de permettre ça, parce que Hollywood est devenu un peu zombie aussi. Et donc, donc il y a cette idée que, enfin voilà, on attend vraiment toutes les cinq minutes la scène, son petit shot de dopamine. Et voilà, et on a cet imaginaire qui revient, c'est-à-dire la sexualité revient. C'est pour ça que Breya, je pense qu'elle détesterait le film, précisément parce que c'est jamais du sexe. Et c'est toujours cet imaginaire qui finalement continue à enfermer le sexe dans une image complètement rétrécie. Et donc on pense beaucoup à Barbie, on pense beaucoup à Disney. Moi je me suis dit c'est vraiment du Disney live un peu épicé. Mais en même temps, comme on a été privé de sexe par Hollywood, on peut trouver ça osé. Il y a des petites scènes où on se dit « Ouh là là, Jacob Elordi lèche la joue de... » Voilà, de Margot Robbie, c'est plutôt rigolo. Et en même temps, c'est fait pour finir sur Facebook dans deux semaines.
Il y a tout un travail sur le sale, le suintant, le Charles Bosson.
Absolument, avec des escargots, avec des gelées, tout est gluant, tout transpire. Alors effectivement, dans la salle à manger, par exemple, il y a comme des gouttes de condensation qui sont faites dans le décor. Une idée assez belle de body horror, qui pourrait être une idée qu'on verrait par exemple dans le Dracula de Coppola, c'est que par exemple, dans la chambre de Catherine, la chambre dans laquelle elle est enfermée, les murs sont en chair, ils sont veinés, et à la fin, quand elle est soignée, on met des sangsues sur elle, mais on met aussi des sangsues sur le mur. Le problème, c'est que cette dimension de body horror, une seconde après, elle est contredite par un moment très fleur bleue. Une seconde après, on passe dans un registre un peu SM, un peu tordu, où je pense que vraiment, elle parle toujours de réaction vraiment du ventre, des tripes. Je crois qu'elle essaye de nous faire ressentir quelque chose d'un amour morbide sans se rendre compte que c'est vraiment le poncif est devenu le roman dans la culture populaire. C'est-à-dire qu'on ne dépasse jamais vraiment ça. Et le film est quand même incroyablement lugubre. Dans tous les sex shops, on peut acheter des huiles de massante, des masques, etc. Bon, si vous voyez le film, c'est pas des films qui donnent très envie. Voilà, c'est des films quand même qui donnent une vision complètement mortifère et tordue de sexualité. Justement parce que, comme il n'y a plus tellement dans le roman des personnages qui ont causé ces traumatismes, on a l'impression que voilà, tout le monde est tout et son contraire tout le temps. Et tout ça est dans l'orage de la musique de Charlie XCX.
Bah, qui est pourtant, vous demander cette musique alors.
Bah, qui est pourtant une musicienne passionnante, qui a été vraiment la grande prêtresse de l'hyperpop, ce que le film voudrait être, une forme d'hyperpop, mais qui vient de rencontrer John Cale, qui est tombée un peu amoureuse de son univers un peu sombre, un peu morbide, et elle imite. Alors il y a un tube qui est pas mal, qui s'appelle House, qui était sorti, dans laquelle on voit vraiment la rencontre des deux. Et ben moi, je vous conseille de regarder le clip de House, parce qu'il est bien meilleur que Hurlevent, finalement.
Mais rajouter un dernier mot?
Non, mais après, c'est, enfin, moi, c'est un objet, moi, j'attendais, je suis contente de l'avoir vu, enfin, je trouve ça, et puis, c'est vrai que, je pense qu'il y a j'attends de voir si ça va marcher, en fait, en France, ouais. Je me demande,
Vous pensez que non? Je doute, visiblement.
Bah, il y a la Saint-Valentin, et puis, mais, je sais pas.
Je crois pas trop bouche à oreille.
Ouais, je pense pour Jacob Elordi et Margot Robbie, puis il y a aussi, je trouve, un écart, ouais, on en a parlé, hors antenne, mais un écart d'âge, et puis, je sais pas qui est fan de Margot Robbie, en fait, ou en tout cas, il me semble que les gens vont plus se déplacer pour Jacob Elordi qui draine les foules.
C'est l'heure de votre coup de cœur, Charles Bosson, pour une série documentaire, en fait.
Voilà. Alors, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les films et la carrière de l'humoriste, scénariste, acteur et metteur en scène américain Mel Brooks, qui fêtera le 28 juin prochain ses 100 ans. À l'approche de cet anniversaire, le cinéaste Judd Apatow et son complice Michael Bonfiglio lui consacrent un documentaire en deux parties qui s'intitule « Mel Brooks, une légende de 99 ans ». Alors, plus de 3 heures extrêmement généreuses en archives qui permettent de reparcourir plusieurs décennies de l'histoire de la comédie américaine et notamment ce passionnant passage des années 70 lorsque les premiers humoristes accèdent aux outils du cinéma, aux années 80, la grande blockbusterisation du genre dont Mel Brooks fut en quelque sorte l'architecte. Issu d'un milieu populaire, de Brooklyn, d'ascendance germano-russe, il a percuté l'histoire du cinéma à coups de gags, de pastiches, de sketchs et de punchlines, et les a marqués par son énergie incontrôlable et son prodigieux tempo d'ancien batteur de jazz. Des producteurs à Frankenstein Jr., en passant par Le Shérif est en prison et son remake de To Be or Not To Be, Mel Brooks a fait de l'histoire des persécutions le sujet de son cinéma et de son rire. Et quand, dans La folle histoire du monde, en 1981, il filme les tortures de l'Inquisition du Moyen-Âge, comme un numéro de comédie musicale de Broadway ou de Busby Berkeley, les journalistes crient au scandale et au mauvais goût, et c'est Pauline Kael, la géniale critique du New Yorker, qui vole à son secours en disant « Si Mel Brooks ne va pas beaucoup trop loin, c'est qu'il n'a pas bougé ». Le documentaire est drôle, il est rythmé par un casting royal d'intervenants, Adam Sandler, Conan O'Brien, Amy Schumer, Ben Stiller, les frères Zucker, Sarah Silverman, et même David Lynch, dont Mel Brooks a produit Elephant Man, après avoir vu Eraserhead, ouvrant les portes de Hollywood à un plasticien allumé venu d'une école d'art. On est aussi très ému de découvrir que cette longue vie a été marquée par une amitié et un amour indéfectibles. L'ami, c'est Karl Reiner, le père du défunt Rob Reiner, avec qui il crée dans les années 50 le duo L'Homme de 2000 ans, auquel le documentaire emprunte malicieusement son titre. Et l'amour, c'est bien sûr celui qu'il a partagé avec sa compagne et partenaire de vie, l'actrice Anne Bancroft. Donc Mel Brooks, une légende de 99 ans, c'est en ce moment sur HBO Max. Et c'est à la fois un morceau d'histoire du cinéma, une réflexion sur l'humour et un puissant antidépresseur.
미국에서는 해골을 도끼질한다고 한다면서요. 한국에서는 뭐라 하는지 아세요? 넌 뭐 하지? 나는 내가 넌 마음으로 날 치지 않아.
On enchaîne avec le nouveau film de Park Chan-wook, Aucun autre choix, c'est le titre. 4 ans après Decision to Leave, qui lui avait valu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, le réalisateur sud-coréen choisit d'adapter un best-seller de Donald Westlake, Le Couperet, roman dont s'était déjà emparé Costa Gavras, c'était en 2005. Il faut dire que l'histoire est séduisante. Human Su cadre dans une usine de papier, a tout pour être heureux, mais quand il est licencié et qu'il voit son statut social dégringoler, il décide de retrouver un poste et cette fois d'éliminer un à un ses concurrents sur le marché du travail. On commence avec quelques mots d'abord, Charles Bosson.
Alors pour moi, c'est quand même une déception. Je pense que c'est un film très mineur dans la filmographie de Park Chan-wook, mais ne boudons pas notre plaisir, il y a quelques scènes mémorables.
Muriel Joudet.
Ouais, moi, c'est le contraire. Enfin, je suis pas une très grande connaisseuse de Park Chan-wook, mais je m'attendais à rien parce que j'aimais pas ses derniers films. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le film d'auteur parfait. À la fois, il y a tout dedans, et même je préfère ça à Parasite, parce qu'on a, je trouve qu'il y a beaucoup.
On y pense, ouais.
On y pense beaucoup. Et je me suis dit, il y a vraiment tout. C'est divertissant, c'est beau, voilà. Et c'est rare que je me dise ça devant un film d'auteur. Je me dis, c'est de la très bonne séance de cinéma. Mmh. Voilà, qui est pas forcément un argument très poussé, mais je me dis. Disais ça devant le film.
Alors, Park Chan-wook vu par Charles Bosson cette fois-ci.
J'ai adoré moi les derniers films de Park Chan-wook et je trouve que depuis Mademoiselle, ouais. Il était arrivé à une forme de maturité, notamment en glissant de ces thématiques éternelles de vengeance et de violence vers quelque chose qui allait vers le couple, vers une forme d'érotisme un peu compliqué, un peu ornemental. Voilà, c'est un cinéaste qui adore les machinations, les petites machines complexes. Il avait fait The Little Drummer Girl qui était une superbe série d'après John le Carré et Decision to Live qui était un remake caché de Vertigo. Faut pas s'y cacher que ça. Et là, tout à coup, il reprend, à mon avis, quelque chose qu'il voulait adapter depuis 20 ans. Je pense qu'au même moment, Costa Gavras. Et pour passer encore un petit détour par Costa Gavras, je trouve que le film de Gavras est beaucoup plus clair dans son propos. C'est-à-dire que Gavras montre que le capitalisme est une guerre et qu'en temps de guerre, tout est permis. C'est très ironique, c'est très méchant. Et le personnage de José Garcia récupérait une arme qui était une arme que son grand-père avait volée pendant la Seconde Guerre mondiale aux nazis et tuait ses victimes avec, dans un monde dans lequel, publicitaire, dans lequel on voyait des morceaux de femmes découpés dans tous les sens, qui étaient censés faire la promotion de sous-vêtements, etc. Dans le film de Park Chan-wook, j'ai l'impression, moi, que ce sujet ne le passionne pas tellement. Pour moi, la satire à la Parasite, il la rate un peu. Dès le début, je trouve que c'est trop bariolé, j'ai l'impression qu'il refait ces images-là, elles sont un peu forcées. Mais la force du film, c'est dans ces détours, c'est dans ces moments où, tout à coup, il ne veut pas filmer le crime. Alors lui aussi, il a une arme qui est cachée, qui vient du Vietnam, puisque les Sud-Coréens ont participé à la guerre du Vietnam avec les Américains. Donc voilà, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Ça fonctionne pas mal chez Park Chan-wook. Très souvent, on prend des œuvres. Il avait adapté Thérèse Raquin pour en faire une histoire de vampire. Voilà, on tord un peu les influences et les références. Et là où je trouve qu'on retrouve son brio de metteur en scène, c'est tout à coup quand il va lancer à fond un tube pop de pop coréenne et que là-dessus, on a l'impression qu'il ne veut pas filmer le meurtre. Donc il filme tout ce qu'il y a autour. Il filme les corps, il filme des corps qui tombent, les personnages se mettent à s'engueuler, on ne sait plus tout à fait ce qu'on regarde. Et Park Chan-wook, un peu comme Brian De Palma, j'ai l'impression, n'a jamais l'esprit aussi clair que quand il est bombardé, assailli d'informations. Et je trouve que justement, la satire que lui propose le roman de Wesley, que Gavras avait adapté de manière très fidèle, le roman est absolument passionnant et je vous conseille de le relire, ça lui donne une trame trop mince pour justement ces détours.
Muriel.
Oui, moi je suis d'accord avec Charles, c'est les détours qui m'intéressent parce que moi j'ai du mal avec les films où voilà, on sait, c'est comme dans Kill Bill, on sait ce qui va se passer, il y a un côté programmatique, on a compris qu'il allait tuer, éliminer voilà tous ses adversaires et du coup ça fait programme et on sait que voilà, ça veut dire que dans nos sociétés capitalistes, voilà, il faut être sans pitié, blablabla. Je trouve ça, je me suis dit, bon, c'est attendu. Et je trouve qu'en fait, le vrai sujet du film, c'est la famille. C'est-à-dire, dans ces sociétés ultra-libérales, le dernier rempart, vraiment l'unique et le dernier, c'est la famille. Et je trouve qu'il insiste beaucoup là-dessus, notamment au début, où il y a une scène de câlin comme ça, filmée en plongée, où toute la famille vient se faire un câlin. Et ça va être un motif du film, c'est-à-dire comment on surinvestit tous la famille d'une telle manière, parce qu'on sait pertinemment que s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien et le capitalisme nous dévore. Et je trouve le film très beau sur ça, en fait, et très conséquent, c'est-à-dire qu'il tire ce fil jusqu'au bout, on ne va pas raconter la fin, mais c'est vraiment l'idée, il n'y a plus que la famille qui nous protège. Et je trouve même sa vision de la famille très déprimante. Il y a ce moment où à la fin ils sont fauchés, donc le personnage principal est au chômage et sa femme est là, on va couper Netflix, on va couper ça. Et je me suis dit, mais c'est terrible, en fait, on est tous les mêmes, quoi. Il y a vraiment ce truc de reproductibilité de la famille qui est, en fait, partout la même. Et pour moi, il regarde ça. Il regarde vraiment le fait que c'est à la fois notre dernier paradis et en même temps, c'est un peu un enfer. Et en même temps, ça nous protège. Et en même temps, c'est quand même une vision de la vie assez désespérée. Donc, je trouve que c'est ça qui fait que le film échappe à son programme. C'est dans ces embardés où Park Chan-wook vraiment regarde la famille.
Charles Bosson.
Et il a un très bel acteur qui est Lee Byung-hun, qui avait joué avec lui dans JSA, qui est le film qu'il a fait connaître il y a 20 ans. Je crois qu'ils n'ont pas rejoué, travaillé ensemble depuis. Et depuis, il est devenu le frontman de Squid Game. C'est le survivant des jeux de Squid Game qui est devenu le monstre. Donc ça, c'est très intéressant aussi de le prendre là-dedans, comme un homme qui chute. Et dans les détours dont parle Muriel, qui sont effectivement absolument passionnants, tous ces hommes qu'il tue, il les absorbe un peu. C'est-à-dire que ces hommes lui donnent des répliques, lui donnent des sentiments. C'est quelqu'un qui se gonfle un petit peu de tous ces personnages. Et dans le livre et dans les deux films, il travaille pour une usine de papier. Et pour la première fois, Park Chan-wook donne une dimension presque érotique à ce papier, puisque tous ces hommes ont cette espèce... Ils pourraient trouver des boulots ailleurs, mais ils n'en ont pas envie parce qu'ils ont cette espèce d'amour de la matière. Il y a quelque chose d'analogique comme ça. C'est un cinéma très analogique. Et à un moment, il dit à une femme, tes lèvres sont plus douces que du papier calque Okamoto. Et la fille lui dit, Okamoto, c'est les capotes. Le papier, c'est Akimoto. Et je trouve que dans ce... Voilà. Dans, à ce moment-là, on comprend toute la complexité du film, et que depuis toujours chez Park Chan-wook, le diable est dans les détails, et plus on traque ces détails, plus on les cherche. On est un spectateur très actif dans ces films, et voilà, plus j'en parle, plus je l'aime.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi, on le sait, chez Park Chan-wook, cette caméra, cette image vraiment magnifique, ce travail sur la beauté pure, vraiment, de l'image.
Bah, en fait, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'il en fait... Il y a ce plan où il y a un moment, un personnage qui boit, je crois, une bouteille ou un verre de whisky, et il met vraiment... la caméra, quasiment dans le verre. Et on se dit, bon, il fait un peu des cabrioles par moment. Il est obligé, voilà. Et en même temps, il y a une générosité. Alors, parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Moi, je trouve que c'est ça. Et en même temps, le film n'est jamais... C'est-à-dire, ce métamorphose sous nos yeux n'est jamais d'un bloc. Et je trouve que il y a un côté vraiment entertainer, mais vraiment, je trouve, de manière très généreuse. Et moi, je m'attendais pas à me dire, c'est vraiment la séance de film d'auteur parfaite, parce que on sent quelqu'un qui veut qu'on s'ennuie pas, qui essaye des choses. Parfois, ça rate. Parfois, ça réussit complètement. Et puis, je trouve que le couple fonctionne. C'est-à-dire, le nombre de films où l'homme, où les couples ne fonctionnent pas, c'est des couples de papier, justement, des couples de principe. Et là, je trouve que c'est tellement son sujet, ce truc-là, de un homme aime sa femme, une femme aime son mari, que on y croit à fond, et c'est hyper important pour toute la suite du film, parce que c'est son sujet.
Et elle est complice. Elle est complice. Ouais, ce qui n'était pas le cas dans le roman, où le personnage était complètement inexistant. Ah, oui. Pareil dans le film de Gavras. Là, tout à coup, elle est un vrai partenaire, et lui fait tout un trajet. Il y a un côté Eyes Wide Shut. Il fait tout un trajet pour justement se retrouver dans une image très belle, où ils sont à la fin comme un corps à deux têtes quand ils s'appellent au téléphone. Et on prend on prend conscience que le capitalisme détruit ou sépare les couples et sépare l'amour, et que le cinéma peut nous aider à retrouver les morceaux.
Aucun autre choix de Park Chan-wook. Ça sort aujourd'hui sur les écrans. Charles Bosson, Muriel Joudet, merci beaucoup d'être venu. Vous retrouvez bien sûr, vous qui nous écoutez, toutes les références des trois films dont nous vous avons parlé aujourd'hui dans la première partie des Midi. Tout ça sur la page des Midi de Culture. Restez avec nous, on revient dans quelques instants.